Ancienne directrice de l'antenne parisienne de la New York University, Caroline Montel-Guénisson est l'auteur de Champlain, la découverte du Canada, chez Nouveau Monde Éditions. À la question « Comment arriver en Chine par le Nord ?», la réponse de Jacques Cartier, d'abord au XVIe siècle, puis ensuite de Samuel Champlain au début du XVIIe, fut de chercher un passage vers la Chine en passant par le Canada. On écoute Caroline Montel-Guénisson. Caroline Montel-Guénisson, bonjour.
Bonjour Françoise Hopjoie.
Alors comment est née cette idée que l'on pourrait aller en Chine en passant par le Canada ?
C'est une histoire assez longue qui s'appuie sur vraiment le contexte géopolitique dans lequel vivait l'Europe depuis presque le Moyen-Âge. Il faut se souvenir que pour les hommes du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, il y avait sur leur marché des denrées qui venaient de l'Orient, de la Chine, des Indes, des denrées de luxe comme la soie, comme la porcelaine, comme certaines drogues pour les médicaments qui fournissaient la pharmacopée européenne. Donc la population européenne était habituée à ces denrées qui, depuis l'époque de Marco Polo, circulaient dans toute l'Europe. À la fin du Moyen-Âge, la plupart des souverains européens se sont dit maintenant qu'on a les moyens techniques de naviguer, il y aurait peut-être des moyens plus simples d'accéder à ces denrées et à ces routes commerciales sans traverser le continent asiatique et européen à pied, comme on le faisait à l'époque de Marco Polo ou les routes de la soie traditionnelles. Donc ils ont pensé qu'il serait peut-être plus simple de passer par la mer. On avait réussi techniquement à élaborer des bateaux, les caravelles qui pouvaient naviguer en haute mer. C'était une idée qui pouvait être économiquement jouable d'atteindre ces pays convoités depuis Marco Polo. Je rappelle entre parenthèses que le livre des merveilles de Marco Polo est un des livres qui a été le plus lu au Moyen-Âge et qui, au moment de l'invention de l'imprimerie, a été l'un des premiers imprimés, après la Bible. Christophe Colomb avait dans ses bagages le livre des merveilles de Marco Polo quand il est parti pour ses voyages d'exploration. Il pensait arriver en Chine. Donc c'est vrai que c'était un moteur puissant. Et puis, avec la montée de l'Empire turc, avec l'incertitude de ces routes de la soie, la France et tous les pays européens se sentaient menacés d'une rupture de contact avec l'Orient à tout instant, puisque évidemment on dépendait de tous ces intermédiaires qui permettaient l'acheminement de ces denrées précieuses. Donc ça a été le moteur. Il y avait aussi des moteurs religieux, des moteurs politiques. Se tailler de nouveaux territoires, répandre la religion catholique ou protestante. Bref, il y avait beaucoup d'autres moteurs, mais le moteur économique était un des gros moteurs. Donc les premiers essais ont été faits par les Portugais qui ont contourné l'Afrique. Ensuite, évidemment, il y a eu le voyage de Christophe Colomb vers l'Amérique, et puis ensuite des explorations qui ont mené autour de l'Amérique du Sud, Magellan, 1520, qui découvre le détroit qui porte son nom. Donc vers 1520, on a une idée d'une route maritime passant par le sud de l'Amérique du Sud, par laquelle on peut rejoindre l'océan Pacifique. C'est intéressant, mais c'est un voyage très long. Aussi bien qu'on contourne l'Afrique pour arriver en Inde ou qu'on contourne l'Amérique du Sud pour arriver en Asie, c'est des voyages extrêmement longs, extrêmement dangereux.
Et quand on est en Inde, on n'est pas en Chine.
Et quand on est en Inde, on n'est pas en Chine. Effectivement, alors Marco Polo, c'était la Chine. C'était le mythique Cathay de Marco Polo, c'était la Chine. Donc c'est vrai qu'après ces voyages d'exploration, l'idée a peu à peu germé que si on avait pu trouver un passage au sud, on pourrait peut-être trouver le même type de passage au nord. À cette époque-là, on croyait beaucoup à la symétrie géographique. On pensait que la forme de l'Amérique du Nord pouvait être à peu près la même que celle de l'Amérique du Sud. Donc l'idée, c'est peu à peu précisé, de voyager par le nord, d'essayer de trouver le détroit de Magellan, enfin l'équivalent du détroit de Magellan, mais au nord. Et ça, ce sont les Anglais et les Français qui se sont lancés vers cette piste, puisque dans une certaine mesure, ils se sentaient, ils avaient l'impression que le sud était déjà exploré et qu'il n'y avait plus de possibilités pour eux par le sud. Par contre, le nord s'offrait à eux. Et il est vrai que François Ier a prononcé cette phrase fameuse, il n'y a aucune clause dans le testament d'Adam qui exclut la France du partage du monde. C'était une manière de dire, c'est pas juste que les Espagnols et les Portugais se partagent le monde, les Français peuvent peut-être y avoir droit.
Du coup, c'est pour ça qu'il envoie Jacques Cartier au Canada.
Exactement, exactement. Alors, Jacques Cartier tombe au bon moment. Jacques Cartier, qui était lui-même marin, qui était de Saint-Malo, qui avait certainement fréquenté les parage de Terre-Neuve avec les pêcheurs qui déjà se rendaient à Terre-Neuve. Hein. On connaissait très bien Terre-Neuve, pratiquement, on savait comment y aller, sans imaginer que c'était un continent nouveau, ni même que c'était les Indes ou la Chine. Hein. On ne se croyait pas du tout, on pensait que c'était des îles. Et donc ça semblait évident à un Malouin que s'il fallait chercher dans une direction, c'était vers le nord, vers Terre-Neuve. Et Jacques Cartier a proposé ça, et il y était déjà allé, et il s'est dit, bon, ben, on va essayer, et on va aller au nord de Terre-Neuve pour voir ce qui s'y trouve, hein, puisque il y avait eu quelques explorations lancées par l'Angleterre, Cabot, qui avait longé la côte américaine, Verrazzano, envoyé par François Ier un peu plus tôt, qui avait lui aussi longé la côte américaine et reconnu, par exemple, le site de New York, mais on n'était pas allé plus au nord.
Alors, pour financer ces expéditions au Canada, c'est le commerce du castor qui se développa très vite, à la vitesse de l'utilisation du feutre en Europe au début du XVIIe siècle.
Oui, vous avez tout à fait raison. Évidemment, le nerf de la guerre était primordial pour lancer des expéditions. Il fallait évidemment réunir des bateaux, des hommes, de la nourriture et du matériel pour survivre dans un endroit où il n'y avait rien. Donc effectivement, ça coûtait cher. Et par exemple, quand Champlain part avec l'armateur du Gadémon pour ses premières expéditions, eh bien, un des arguments qui emporte l'adhésion d'Henri IV, et en particulier de son ministre Sully, qui était l'homme des finances et très très strict sur les finances, c'est que ça ne coûterait rien aux cassettes royales, qu'on se paierait sur la bête en somme. Et la bête, c'est vraiment le mot, puisqu'il s'agissait du castor. Et effectivement, ces armateurs à ce moment-là s'arrachaient, c'était le monopole du commerce des fourrures au Canada. Parce que c'était un commerce lucratif, le castor canadien était de très belle qualité, et en plus les Indiens rasaient le castor eux-mêmes, ce qui permettait d'éviter d'envoyer ces peaux de castor en Russie, comme on le faisait auparavant, où elles étaient traitées par des artisans russes qui savaient, eux, préparer le castor sec. Les Indiens savaient, eux, traiter le castor, qu'on appelle castor gras, en lui rasant les poils. Donc on faisait une grande économie en récoltant cette fourrure auprès des Indiens. Voilà. Mais avoir le monopole des fourrures au Canada, théoriquement ça paraît génial, voilà, vous avez le monopole, disait le roi, et puis après à vous de faire respecter votre monopole. Alors quand on sait que par exemple à l'époque de Champlain ou du Gadémon, il y avait une centaine de bateaux français venus de tous les ports, hein, de Biarritz jusqu'à Saint-Malo, qui louvoyaient le long des côtes, pêchaient la morue, et commerçait avec les Indiens. Comment faire respecter un monopole quand on est juste un commerçant, hein? On n'a pas d'armes, on ne va pas tuer les autres, on ne va pas leur faire un procès. Donc, c'est pratiquement impossible de faire valoir ses droits. Et c'est ce qui provoquera la ruine du commanditaire des expéditions avec lequel Champlain a fait ses premières traversées, Pierre du Gadémon, qui se ruine parce qu'il ne réussit pas à récupérer... vraiment ce qui représentait vraiment le monopole, c'est-à-dire l'exclusivité de l'achat des fourrures de la côte canadienne. Impossible de faire respecter ça.
Alors Champlain y croit tellement partir sur la route de la Chine en partant vers la route des Grands Lacs d'ailleurs, qu'il pensait peut-être que c'était la mer, qu'il aurait emporté une robe chinoise de cérémonie au cas où il rencontrerait l'empereur de Chine. Voilà quelqu'un qui était quand même très prévoyant.
Ça, c'est un, oui, c'est un épisode très, très joli et qui, est, qui se rencontre souvent, d'ailleurs, dans les récits des grands explorateurs qui ont, comme ça, une utopie. Ils se préparent à toute éventualité. Alors, pour Champlain, dès 1603, en parlant avec les Indiens, bien sûr, par le truchement d'interprètes, il avait réussi à se faire, et en dessinant sur le sable, hein, il le raconte, il avait réussi à se faire dresser par les Indiens un embryon de carte du réseau hydrographique canadien. Donc il savait déjà dès 1603 que par le Saint-Laurent, on arrivait à une mer douce. Donc dans ses premières cartes, cette mer douce se perd dans une espèce d'horizon brumeux et on peut imaginer que ça touche la fameuse mer septentrionale qu'il pensait atteindre. Et dès ce moment-là, il veut tellement que ça soit vrai qu'il croit les récits des Indiens. Mais dans une certaine mesure, il n'a pas tort de les croire, parce qu'effectivement, des grands lacs, il y a des accès vers des mers. On accède par le réseau hydrographique, par exemple, au Mississippi, qui va au golfe du Mexique. Et c'est vrai que quand les Indiens disent, par le réseau hydrographique, on va à la mer, c'est vrai. De même, on peut atteindre la baie d'Hudson par un réseau hydrographique qui cette fois-ci part vers le nord. On atteint une sorte de mer. Hein. La baie d'Hudson, c'est tellement grand que ça peut être pris pour la mer du nord. Donc, c'était pas totalement faux ce que disaient les Amérindiens.
Ce qui était faux, c'est que c'était pas la Chine.
Voilà. Alors, ce qui était faux, c'est-à-dire lui pensait aboutir à la mer, ce qu'il appelle quelquefois la mer du nord, quelquefois la mer septentrionale, quelquefois la mer du sud, parce que il faut comprendre qu'à cette époque, on n'avait aucune idée de l'amplitude, de l'immensité du continent américain qu'on ne finira d'explorer qu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Vancouver, c'est vraiment l'extrême fin du XVIIIe siècle. À l'époque de Champlain, on avait plutôt l'idée, parce qu'on connaissait quand même le golfe du Mexique, qu'il y aurait peut-être une symétrie avec un autre golfe quelque part dans le haut du continent. On était très dans les symétries géographiques ou dans l'idée d'une ligne de partage des eaux qui aurait pu être les grands lacs avec d'autres fleuves conduisant vers cette mer septentrionale. On n'imaginait pas les rocheuses du tout.
Et quand s'est-on rendu compte qu'on n'arriverait jamais en Chine en passant par le Canada?
Je pense que Champlain s'en est peut-être rendu compte. Il a dû se rendre compte de l'immensité, parce qu'il a tellement parcouru les fleuves, les lacs, en canot, ramant lui-même, y mettant vraiment... c'était pas un géographe en chambre, hein, c'était vraiment l'explorateur qui retroussait ses manches. Donc il s'est peut-être rendu compte, mais dans ses derniers textes, il est plutôt amer de ne pas avoir été suivi par les finances royales. Il est plutôt amer de ne pas avoir été encouragé. Il espère encore qu'un jour on le fera. Les explorateurs de tout le XVIIe siècle continuent à vouloir traverser le continent. Un cavalier de La Salle, lorsqu'il découvre le Mississippi et puis qu'il entreprend de le descendre, c'est un peu avec l'idée que peut-être il va arriver dans cette mer septentrionale. Bon, rapidement, en raison de la géographie, il se rend compte que ça va aboutir dans le golfe du Mexique. Mais quand même, on pouvait croire au début qu'on avait trouvé cette fameuse rivière qui menait à la mer septentrionale. Donc lui aussi, c'était un de ses moteurs. Mais plus tard, au XVIIIe siècle, les frères La Vérendrye, qui vont arriver jusqu'aux Rocheuses, espéraient eux aussi tomber sur la mer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils tombent sur les Rocheuses. Donc, encore une fois, l'espérance est d'atteindre cette mer est repoussée à encore plus loin. Et donc c'est quelque chose qui soutient continuellement l'exploration du continent américain par les Français au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et je dirais même que Chateaubriand, quand il arrive en Amérique au moment de la Révolution, son idée française, c'est d'être un explorateur et d'être le découvreur de la fameuse voie
vers la Chine.
Oui. Enfin, oui, la route du Nord, on parle peut-être plus de la Chine, mais d'être celui qui découvrira cet océan septentrional, qui découvrira la voie. Alors, pauvre Chateaubriand, il va jusqu'aux chutes du Niagara, il glisse, il se casse la jambe, il ne va pas plus loin, mais il en fait toute une épopée. c'est vrai qu'il rêvait d'un truc comme ça, lui aussi, encore.
Caroline Montel-Glinisson, merci.
Nous écoutions Caroline Montel-Glinisson à propos de Champlain à la recherche d'un passage vers la Chine au XVIIe siècle. On peut lire pour en savoir plus Champlain, la découverte du Canada, chez Nouveau Monde Éditions.